Dans un monde où on ne parle que des malheurs et des catastrophes, de temps en temps, une bonne nouvelle, un conte de fées, une histoire heureuse, ça fait plaisir et ça fait du bien et les gens en ont besoin. Et puis je dirais au point de vue britannique, ce genre de mariage royaux, c'est quelque chose qui revient régulièrement hein, depuis un siècle et demi, depuis Victoria et Albert en 1840, tous les 20 ou 30 ans, les Britanniques se donnent rendez-vous, je dirais, avec eux-mêmes et avec leur histoire autour d'un événement heureux comme ça. Le mariage de l'héritier du trône, et donc c'est devenu une sorte de respiration de la vie nationale britannique. Ce mariage est à la fois traditionnel parce qu'il se place dans cette longue lignée des mariages royaux, en même temps il est un peu différent puisque Catherine Middleton est issue non pas d'une famille royale, même pas d'une famille aristocratique, mais d'une famille de la riche classe moyenne, mais enfin quand même de la classe moyenne britannique. Et puis on est aussi dans un monde de plus en plus médiatisé, de plus en plus globalisé, et c'est vrai que cet événement va être regardé par 2 à 3 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ça prend vraiment des dimensions planétaires, ce qui était déjà le cas il y a 30 ans pour Diana et Charles, puisqu'il y avait eu 750 millions de téléspectateurs, mais c'est vrai que là, toutes les divisions du monde vont le relayer.
Est-ce que cet attachement au couple est superposable à celui que les Britanniques ont pour leur monarchie ?
La monarchie, c'est un régime qui a ça de particulier, qui s'incarne dans une famille, dans une lignée, et donc tous ces événements familiaux, mariages, décès, baptême, etc., tissent finalement l'histoire d'amour d'un peuple avec sa famille royale.
Le rôle ou le poids de la monarchie aujourd'hui est pourtant l'équivalent de presque rien.
C'est un pouvoir symbolique, mais le symbole est quelque chose de très important dans notre monde. La reine d'Angleterre n'a pas un pouvoir politique au sens politicien du terme, elle rencontre quand même le Premier ministre toutes les semaines, elle est informée de toutes les décisions gouvernementales, elle règne depuis 60 ans, donc elle a eu de nombreux premiers ministres de toutes couleurs politiques, elle a eu Winston Churchill comme Premier ministre dans les années 50, donc vous voyez un peu cette sagesse, cette connaissance de la réalité de notre monde que peut avoir une personne comme Elisabeth II, et lorsqu'elle rencontre son Premier ministre, c'est un peu comme si le Premier ministre suivait une psychanalyse et que toutes les semaines il rencontrait quelqu'un qui lui est extérieur, supérieur et vis-à-vis de laquelle il peut se renvoyer sa propre image d'une certaine manière. Donc ce n'est pas un pouvoir politique au sens étroit du terme, c'est une autorité en tout cas réelle.
La reine donc appuie le Premier ministre et le Premier ministre, lui, s'en saisit. Ce jour férié pour le mariage de Kate et William, c'est quoi ? C'est un classique ou c'est une opportunité politique ?
C'est quelque chose qui se place dans un domaine tout à fait différent des rivalités politiques. C'est justement ça qui est l'intérêt de la monarchie, c'est qu'elle est à l'extérieur des clivages travaillistes conservateur. Le Premier ministre en exercice assistera bien sûr à ce mariage, mais je dirais qu'il n'est pas partie prenante, c'est quelque chose qui est extérieur au petit jeu des ambitions politiques.
Est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir un tel engouement pour la famille royale qui finalement représente quoi le passé, clairement, bien que le présent aussi, qui sont tous blancs, anglicans, aristocrates, alors que précisément on est dans une société multiculturelle, multireligieuse.
Dans un monde qui se globalise de plus en plus, qui perd ses repères, ses racines, ses références, le fait qu'il y ait comme cela une institution qui représente une certaine continuité, plus de 1000 ans d'histoire, c'est sans doute pour les Britanniques une manière aussi de rester eux-mêmes et de pouvoir regarder l'avenir sans perdre pied. C'est pas contradictoire.
Jeune, riche, cultivé, est-ce que c'est une image qui a aussi été manipulée pour que les gens aiment ce couple ?
Ce que vous dites était vrai sans doute pour Charles et Diana. C'était un mariage arrangé. Charles était un célibataire endurci qui avait trouvé une demoiselle de bonne famille qu'on lui avait choisie pour faire le casting de la princesse de Galles, je dirais. Là, on a l'impression que c'est quand même plus une histoire réelle, une vraie histoire d'amour. C'est des jeunes gens qui se connaissent depuis 8 ans, qui ont fait leurs études ensemble, qui ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils voulaient, etc. Donc on a l'impression que c'est un véritable couple qui se construit et qui concrétise son amour dans quelques jours.
Donc une jeunesse qui fait rêver authentique et moderne. On a quand même l'impression que souvent la monarchie britannique vole le succès des autres monarchies. Pourquoi ?
La monarchie britannique est la première et peut-être elle sera la dernière qui restera au monde. Je crois que c'était le roi Farouk qui disait « Il n'y aura bientôt plus que le roi de cœur, le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de pique et la reine d'Angleterre ». Donc finalement, oui, je pense que c'est la monarchie par excellence. Elle a su à la fois être moderne, elle a su conserver ce faste, ce goût de la tradition et en même temps savoir évoluer avec son temps. Elle a su surtout accompagner son peuple d'une manière admirable pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc je pense que cette monarchie britannique est par essence la monarchie européenne, oui.
Sur la question du coût du mariage, on en a beaucoup parlé, crise économique, conte de fées, mais est-ce que c'est un mariage qui va quand même rapporter à la société britannique?
Il va rapporter énormément, oui, oui. Au point de vue simplement marketing et image de l'Angleterre, c'est un coût formidable. Ça va coûter à peu près 100 millions d'euros, hein, ce mariage, et ça va en rapporter 800 à 1 milliard d'euros. Hein. Les hôtels sont pleins, on vend plein de produits dérivés. Du coup, les gens vont aller plus en vacances en Angleterre, en voyage à Londres, etc. Enfin bon, non, c'est quelque chose qui est tout à fait rentable. Alors qu'à côté de ça, une élection présidentielle coûte très cher aussi et ne rapporte absolument rien.